BO mensuel, émission produite par Benoît Basirico sur Aligre FM, qui dévoile chaque mois sa sélection de musique de film, nos coups de cœur passés et à venir, de musique originale. Au programme, un retour sur nos coups de cœur récents et à venir, un focus sur deux films d'animation, Wardi et Funan, et nous entendrons leurs compositeurs, Thibaut Adjeman et Nathanel Bergès. Il sera question de chansons au cinéma, en compagnie de Julie Rouet, qui a chanté au cinéma notamment dans Jeune Femme, mais aussi pour son premier album, About Look, qu'elle vient nous présenter. Julie Rouet, bonjour.
Bonjour.
Il sera aussi question avec vous des femmes en musique de film, question délicate qui fera l'objet d'une table ronde au festival d'Aubagne, qui se tient du 18 au 23 mars prochain. On détaillera la programmation de ce festival incontournable avec sa déléguée générale, Gaëlle Rodeville. Autre festival, Ciné-Note, à Bordeaux, du 7 au 15 mars, qui se consacre à l'œuvre de Bernard Herrmann. Ishtar Mathus Eschein nous présentera cet illustre compositeur. Ishtar, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et enfin, Manuel Bleton, qui va nous rejoindre en fin d'émission, cette fois avec John Williams.
Faites semblant de dormir. Un maximum de cinéma.
On ouvre avec notre sélection des coups de cœur récents du mois écoulé. Nous avions clôturé l'émission dernière avec Alita, musique de Junkie XL, et Grâce à Dieu, musique des frères Galperine. Eh bien, on prend la suite de l'émission dernière. On ne va pas rediffuser ces deux extraits qui sont toujours des coups de cœur. Mais on rattrape donc d'autres sorties, notamment une intime conviction. Le film est sorti le 6 février dernier, un film judiciaire avec Olivier Gourmet, l'avocat, Laurent Lucas, l'accusé, et Marina Foïs, persuadée de son innocence. Premier film d'Antoine Rimbaud, musique de Grégoire Auger, que je remercie puisque la BO n'est pas sortie. Et donc, merci de nous avoir confié cette partition exclusive pour les auditeurs d'Aligre, une intime conviction. Une intime conviction à l'instant, musique de Grégoire Auger. Autre coup de cœur du mois de février, le 13 février, sorti de Fils, premier film de Félix Moati avec Benoît Poulvorde, le père, Vincent Lacoste et Mathieu Capella, les deux fils, musique de Limousine, groupe jazz-rock exclusivement instrumental, saxo, clavier, guitare, batterie, emmené par Laurent Barden. Pour Félix Moati, la musique de Limousine apporte du groove, de la légèreté, de la chaleur, elle a un côté urbain, nocturne et sexy. Deux fils, un des coups de cœur de février.
Thank you.
Deux fils, musique de Limousine et Thibaut Vic. Notre chroniqueur n'est pas dans les studios, mais il a pu nous faire parvenir son avis sur cette musique.
C'est un film avec une ambiance un petit peu décalée, un petit peu ironique, avec un peu d'errance finalement des personnages. Et je trouve que cette BO de Limousine, qui est dans la notion de la boucle, de la répétition, ce côté un peu jazzy, les sonorités du saxo qui sont vraiment très chaudes. Et puis il y a une véritable atmosphère, notamment dans Dérive urbaine, ce titre, qui pourrait être d'ailleurs une musique de série télé, parce que on revient vers des personnages, on revient sur un même thème, mais qui est adapté à chaque situation, donc c'est comme si on se promenait avec ces personnages tout au long du film, mais toujours avec une certaine nonchalance des thèmes. Et je trouve aussi qu'il y a un très bon équilibre entre la partition écrite, entre le score et la tracklist qui a été choisie par Félix Moati. Les deux se complètent bien, enfin, il y a vraiment une imbrication qui fait que voilà, il y a un très bel équilibre dans le film entre ces détachements des univers, ce minimalisme, et qui rend l'ensemble très attachant.
Thibaut Vic à l'instant au sujet de la BO de Limousine pour Deux Fils. On avance dans le mois de février avec, sorti le 20 février, Le Chant du Loup, premier film de Antoine Baudry, décidément beaucoup de premiers films récents en France, avec François Civil, Omar Sy et Reda Kateb, tous dans un sous-marin. Thomann Dendy, ça faisait longtemps qu'on les avait pas entendus, groupe américain de musique électronique, qui signe cette partition pour ce film de guerre naval. Le Chant du Loup à l'instant, musique de Thomann Dendy. Autre coup de cœur, musical, ce film-là je ne l'ai pas vu contrairement aux autres, Sang Froid, sorti le 27 février, film d'action britannique par le cinéaste norvégien Hans-Peter Molland, avec Liam Neeson. J'ai pas vu le film, mais ce compositeur je l'adore. Il s'agit du compositeur anglais George Fenton, habituel de Ken Loach, et donc je ne l'attendais pas là, et une belle surprise musicale pour ce Sang Froid. Thank you. Sang froid, musique de George Fenton, rien dans la musique n'indique qu'il s'agit d'un film d'action avec Liam Neeson, c'est ce qui est beau dans cette musique un peu en décalage. Sortie le 27 février dernier, celle que vous croyez avec Juliette Binoche, qui se fait passer pour une femme de 24 ans sur les réseaux sociaux, auprès de François Civil, le jeune homme qui tombe dans le panneau. Nicole Garcia, elle, joue la psy. Ibrahim Malouf retrouve sa fille Nebou, après Dans les forêts de Sibérie en 2016, qui lui a valu le César de la meilleure musique de film. Ibrahim Malouf oublie pour une fois sa trompette, puisque cette partition est dénuée de trompette, mais cette partition thématique et intimiste privilégie le piano et les cordes. Musique de Ibrahim Malouf pour celle que vous croyez. Et nous retrouvons Thibaut Vic qui a un avis sur cette BO.
Dans celle que vous croyez, il y a ce sentiment d'errance, mais qui est moins physique que psychologique. C'est un peu la promenade dans la tête du personnage de Claire, joué par Juliette Binoche, et qui se confronte à la fois au temps du récit du film, qui est la séance d'analyse avec sa psychiatre, et le personnage qu'elle raconte au travers de ces séances. Donc il y a la distance du personnage au temps présent, avec l'excitation, la honte, mais aussi l'envie d'avancer du personnage dans le passé. Il y a ce double aspect donc entre le piano qui pourrait symboliser, je pense, le personnage de Claire et le personnage fictif de Clara, donc qu'elle se crée, au violoncelle. Et les deux s'imbriquent dans des thèmes assez mélancoliques, dans des nappes enveloppantes avec des cordes, des tenues de cordes sur une base qui est plutôt de l'ordre de la musique répétitive. On pense pas mal à Max Richter, notamment dans le titre Une vraie photo de soi, qui fait penser à On the Nature of Daylight. Et puis, il y a toujours ce toucher souple du piano qui pourrait imiter les notifications qu'on a sur son ordinateur, mais toujours avec une extrême douceur et quelque chose de très pudique dans le film qui m'a beaucoup touchée. Et cette musique arrive dans le film comme des nappes à des moments précis, mais qui décuplent vraiment l'émotion de ce qui est ressenti à l'image. Donc pour moi, c'est vraiment une très très grande réussite.
Benoît Basirico et Cinésique sur LFM pour l'actualité du mois de la musique de film.
Nous venons d'entendre Thibaut Vic nous parler de la BO, donc de celle que vous croyez, par Ibrahim Malouf. Et enfin, dernier choix de février pour les BO du mois écoulé, Vardi, film d'animation norvégienne mêlant marionnettes et photos d'archives sur une famille dans un camp de réfugiés libanais, premier film de Mats Grorud. Nous avions déjà diffusé un morceau musical dans la précédente émission, mais là nous allons entendre également le compositeur Nathaniel Bergès nous parlait de cette partition pour Vardi.
voulait pas faire de la carte postale. C'est-à-dire qu'on fait de la... On est au Moyen-Orient, on voulait pas faire de la musique 100% Moyen-Orientale. On n'est pas là pour faire du ton sur ton. Donc du coup, on a décidé de décliner avec un quintet à cordes, donc contrebasse, violoncelle, alto, deux violons, une guitare qui est un peu le pendant du oud, mais avec sans le côté traditionnel du oud, qui est cet instrument Moyen-Oriental. Et les deux petites touches qui viennent compléter, c'est les percussions donc, de Youssef Aishbach, qui lui est un percussionniste mondialement reconnu pour les percus Moyen-Orientales, et la voix. Et on voulait cet apport d'humanité que peut apporter la voix, qui crée une proximité, je dirais, avec le spectateur, parce que bah, la voix, tout le monde l'a, tout le monde peut chanter finalement, et on peut s'y retrouver beaucoup plus facilement. Ce qu'on a voulu, c'est travailler avec deux structures musicales qui va évoquer finalement le Wardi dans son présent, aujourd'hui, et puis un thème qui vient évoquer la maison, la Palestine, la terre où ils ne sont plus et où ils espèrent revenir, mais dont Wardi garde la clé finalement. Et donc on joue avec les musiques, avec ces deux évocations-là, à travers ces deux thèmes. Et quelquefois on peut très bien évoquer la Palestine qui n'est pas là par la musique. Évidemment c'est subtil, mais c'est un élément de narration supplémentaire qu'on apporte au spectateur. C'est un jeu qu'on se rajoute, et c'est une cartouche qu'on se donne en plus avec Mats pour raconter l'histoire. L'image contient quelque chose et on veut rajouter une dimension supplémentaire de douceur, ça peut être le cas. La touche musicale, elle vient là pour élever un petit peu le propos, pour donner une dimension un peu plus large. Les enfants rient, les enfants jouent, etc. Globalement, oui, c'est une tragédie, mais tout n'est pas tragique à l'intérieur. Donc on vient essayer d'apporter ça avec la musique par moment. Thème qu'on vient d'entendre, c'est la partie où je crois que c'est le grand-père de Wardi qui s'engage dans les jeunesses pour revenir reprendre les terres de Palestine. Donc il y a quelque chose de militaire un petit peu, de martial, il y a de l'ordre du combat aussi à l'intérieur. Donc là c'est vrai qu'on avait le choix d'appuyer ce moment-là par la musique. Et puis il me semble qu'à la fin de ce passage-là, il y a la voix qui vient, parce qu'il recueille un peu de terre, il y a quelque chose de sacré à ce moment-là, il ramène avec lui un peu de sa terre, et donc on a la voix qui vient apporter cette couleur-là, contrebalancer la séquence qu'on a eue juste avant.
Musique de Nathanaël Bergès pour Wardi, film d'animation sorti le 27 février dernier. Nous avons entendu le compositeur en parler.
J'écoute uniquement les chansons, parce qu'elles disent la vérité.
Est-ce que les chansons disent la vérité, comme Fanny Ardant vient de le dire ? Julie Rouet peut-être peut nous répondre. Julie Rouet, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, bah, compositrice donc, d'un parcours plutôt classique, qui s'est dirigée vers la chanson au service des films, il y a eu un passage, est-ce qu'on peut le dire comme ça, un passage de cette écriture classique à la chanson dans votre travail ?
Alors moi, je ne le présenterai pas comme ça, parce qu'en fait, la chanson, c'est ce par quoi j'ai commencé. Quand j'avais 18 ans, j'écrivais des chansons toute seule dans ma chambre avec ma guitare. Et puis, bah, à cette époque-là, j'imaginais pas du tout que la musique puisse être un métier, donc je me suis dirigée vers les métiers du son. Moi, je suis une technicienne du son, en fait. Et je me suis formée un peu plus tard, vers 23 ans, à l'écriture musicale. Donc, c'est venu vraiment tard. Et la chanson, j'ai envie de dire, ça m'a rattrapée. C'est-à-dire que je crois que les réalisateurs ont remarqué que j'aimais bien faire ça. Du coup, on m'a demandé d'écrire des chansons pour des films. Et puis, de fil en aiguille, Maintenant, je fais des chansons juste pour moi.
Voilà. On reviendra donc dans un instant sur cet album. About Look, c'est une formation que vous avez créée. On va y revenir donc pour cet album. Mais avant cela, vous avez écrit des chansons pour le cinéma, notamment Jeune femme. À l'instant, Chelsea Hotel, une chanson donc que vous avez composée, écrite et que vous interprétez, Julie Rouet, pour Jeune femme, le film d'Éléonore Serrail qui a eu la caméra d'or à Cannes. Alors moi, j'avoue, je vous connaissais avant de voir ce film à Cannes et j'étais pas du tout, je ne me suis pas du tout rendu compte que c'était votre voix, que c'était votre chanson. J'avais même l'impression de chanson préexistante puisqu'il y a plusieurs chansons dans ce film avec à chaque fois des couleurs différentes. Est-ce que finalement, à travers les chansons pour le cinéma, il y a cette capacité à être caméléon, à se muer dans différents genre et style, Julie Rouet?
Oui, complètement. J'ai l'impression que c'est l'essence de ce travail et c'est ce qui m'intéresse dans le fait de faire de la musique de film. Après, j'ai l'impression que le travail pour Jeune femme, c'est quelque chose qui correspond à une esthétique du cinéma qui est, il me semble, de plus en plus présente, où la musique qui pourrait être préexistante ou qui l'est parfois, mais fait vraiment partie du discours et où la voix, la voix des chansons devient un petit peu la voix intérieure des personnages. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur Limousine. Alors là, il n'y a pas de chant, mais c'est un peu la même idée de la personnalité des personnages qui passe par une musique qui pourrait être préexistante. Voilà. Alors quand je veux faire de l'autodénigrement, je dis que c'est de la tapisserie musicale, parce qu'on est parfois dans des lieux comme un bar, un restaurant, il y a de la musique qui passe, et en fait cette musique là elle est toujours pensée en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur des personnages.
Vous prenez aussi en charge donc ce qu'on appelle les musiques de source à travers ces chansons. Et donc il y a différentes univers musical dans la chanson, et ce projet About Look est également un autre univers. Ce ne sont pas vraiment le même style de chanson qu'on peut entendre dans Jeune femme. Comment du coup s'est décidé ce choix de créer cette formation About Look? Est-ce que c'est une manière de vouloir s'affranchir de l'image, d'un récit, de faire une musique pour soi? Parce qu'une musique de film n'est pas forcément totalement une musique pour soi.
Ah bah oui, c'est complètement ça. En fait, ça vient d'un défi. Donc je vous disais tout à l'heure, quand j'avais 18 ans, j'écrivais des chansons et j'avais une espèce de nostalgie de cette époque-là, de me dire « Ah, j'étais innocente, je faisais des chansons juste pour moi et je m'en fichais de ce que les gens allaient en penser. » Et je voulais voir si j'étais encore capable de faire ça. Donc je me suis enfermée dans une chambre au bord de la mer et j'ai voulu tester ce qui allait se passer. Et puis en fait, c'était une chanson par jour, donc visiblement j'avais des choses à dire. Et l'esthétique de ces chansons-là, c'est venu un petit peu sur le coup, mais aussi parce que la musique de film m'habitue à avoir des contraintes. En général, je discute de l'instrumentation avec les réalisateurs avant même de commencer à écrire. Là, c'était un peu pareil, sauf que le cadre, c'est moi qui me le fixais avec les sons que j'avais choisis. Et je voulais que ce soit très minimaliste, que ça repose beaucoup sur la voix.
Et le projet personnel, le cinéma, l'image en tout cas, est toujours lié, puisqu'en fait, ce projet About Look a eu déjà une première présence à la télévision sur OCS, la série HP dans le monde médical. Il y a 4 chansons signées About Look, donc vous. Donc ce ne sont pas des chansons issues de cet album qui vient de sortir, mais d'autres chansons. Alors, vous peut-être expliquer?
Oui, alors dans la série, il y a aussi des chansons de l'album, mais que j'ai pas voulu mettre dans la BO de la série. En fait, alors tout est un petit peu imbriqué, c'est-à-dire que la première rencontre s'est faite autour du générique de cette série. La réalisatrice Émilie Noblet, je lui ai fait écouter des chansons que j'avais faites. Elle a entendu un titre qui s'appelait Only Silence is Crazy, qui ne fait pas partie de l'album About Look, mais qui faisait partie de mes bonus, on va dire. Et elle a dit, ça, ce sera le générique. Et donc, de là, est partie l'idée de continuer dans cet univers-là. J'ai réutilisé des sonorités de synthé que j'avais utilisées dans mon album dans la série. Et en fait, j'ai donné toutes mes chansons aux monteuses qui ont pioché ce qu'elles voulaient. Donc finalement, il y a pas mal de fins d'épisodes qui se passent avec des morceaux qu'elles ont choisi elles-mêmes.
HP donc, 10 épisodes sur OCS, peut-être toujours d'ailleurs disponible, dirigé par Émilie Noblet, et cette chanson, signée Hub Outlook, alias Julie Rouet.
Hey, Mr. Pink, what could make you happy? Play a song, tell a story. Cigarette and whiskey, maybe life is a joke. Like this funny plant you smoke, only silence is crazy. Hey, old fellow, they call you a UFO. Let them say, let them go, let them talk to the echo. By the fool in the crowd, in the rain, the clouds, only silence is crazy. Life is such a piece of cake beneath our candles. Every day takes what it takes, whether you're quirky or going crazy. What difference does it make?
Three Songs, un titre extrait de l'album Hub Outlook par Julie Rouet, ici présente. Alors cette chanson que l'on vient d'entendre n'est pas du tout faite pour un contexte audiovisuel, cinéma ou télé. Vous êtes affranchi de l'image pour cet album, mais malgré tout cet album, alors qu'il vient de sortir, hein, c'est ça, chez Milan Musique.
C'est ça.
Alors tout d'abord, le contexte de la production de cet album, est-ce que c'est Milan Musique qui vous a fait cette proposition ou vous qui êtes venu vers le label ?
Non, c'est moi qui, au départ, je pensais pas du tout faire un album, pour être honnête. Je voulais tester ma capacité à écrire pour moi, tranquillement. Et puis, petit à petit, j'ai fait ces chansons, j'en étais contente. Donc, j'ai demandé à certains de mes amis de m'aider, de jouer sur le disque. Donc, il y a quelques instruments. Et puis, il y a François Clos, qui est le réalisateur de l'album, qui m'a vraiment aidé à faire des arrangements. On a vraiment travaillé ensemble. Et une fois que tous ces enregistrements étaient faits, j'avais prévu en fait de sortir l'album moi-même. J'ai fait un crowdfunding pour trouver les finances. Et en fait, comme j'ai donné ces chansons au montage de HP, de la série dont on parlait tout à l'heure, et que finalement ces chansons, pour une bonne partie, se retrouvaient dans une série télé, Milan Musique, qui est à la base un label qui s'occupe de musique de film, a été intéressé à sortir cet album. Mais voilà, initialement, c'était censé être très très confidentiel. Mmh. Et je précise une chose, c'est que cet album, il s'appelle Hub Outlook, mais c'est aussi mon nom quand je fais cette musique-là. Donc il n'écrit nulle part Julie Rouet. Je me cache derrière ce nom-là et ça m'arrange bien.
Mais maintenant, vous êtes démasqué.
Ouais.
Alors, à travers ces chansons, est-ce que malgré tout, vous voulez raconter des histoires, hein, quelque chose de narratif à travers ces chansons?
C'est narratif. J'ai l'impression que c'est surtout des lettres que j'adresse à des gens. C'est des confidences, c'est des pensées intimes. Ça n'a pas d'autres prétentions sur... je prétends pas raconter l'état du monde ou donner de grandes leçons, mais c'est plutôt des sentiments qui me traversent et que je partage comme ça.
Est-ce que vous aviez recyclé un peu des chansons que vous aviez prévues pour des films qui n'ont pas été utilisées, par exemple ?
Pas du tout. Je fais beaucoup de recyclage, mais pas dans ce cas-là. Là, c'est tellement personnel que ça pouvait pas être autre chose que ces moments écrits à cet endroit-là, à ce moment-là.
Et l'image va être malgré tout présente, parce que quand on dit chanson, parfois, pour le marketing, il y a des clips. Est-ce qu'il y aura des films conçus pour cet album ?
Alors, vous ne croyez pas si bien dire. Bon, déjà, il y a les clips qui existent déjà, les clips officiels de la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, le générique de HP qui s'appelle « Only Silence is Crazy ». Et d'une autre chanson, donc le single qui s'appelle « Daddy's Down ». Ces deux clips-là ont été réalisés par Emily Noblet, qui est la réalisatrice de HP. Donc, je trouve que... Enfin, moi, j'en suis très, très contente parce qu'on retrouve sa sensibilité et sa façon de filmer qui est très, très, très à fleur de peau. Et en plus de ça, j'ai lancé un projet comme ça qui paraît un peu fou, qui s'appelle The Look Film Project. Ça fait bien quand je le dis avec cet accent, hein, c'est super sérieux. Où j'ai demandé en fait à des réalisateurs, qui sont des gens avec qui j'ai travaillé en documentaire ou en court-métrage, s'ils étaient d'accord de me faire un cadeau et de faire un film à partir d'une chanson qu'ils choisiraient dans l'album. Et donc comme ça, et ça commence demain, à partir de demain sur YouTube, il y aura un film, j'espère, toutes les deux semaines. Ça commence avec une réalisatrice qui s'appelle Claire Juge et qui filme la danse.
Très bien.
Elle fait ça avec beaucoup de talent et donc elle a filmé des danseurs, en l'occurrence dans ma chambre.
Super. Et Angèle Kyodo va le faire aussi.
Angèle Kyodo va en faire un également. D'ailleurs, sur la chanson qu'on vient d'entendre, Three Songs.
D'accord, très bien. Angèle Kyodo, rappelons-le, elle a réalisé un film Les Chiens, dont vous avez écrit la musique, un court-métrage. Elle prête sa voix à la chanson-titre du générique de Jeune Femme, et donc là, va réaliser un des films à partir d'une chanson d'About Luke. Et pour terminer sur About Luke, peut-être des concerts à venir, il y en a déjà eu à Paris, je suis allé voir au Hasard Ludique.
C'est ça, pour l'instant, pas encore de date prévue, mais c'est dans les starting blocks.
Très bien. Julie Rouet, vous serez maintenant, autre actualité pour vous, vous serez bientôt à Aubagne, festival de musique et cinéma d'Aubagne, qui se déroule du 18 au 23 mars prochain, qui fêtera ses 20 ans, un concert exceptionnel à l'occasion de ses 20 ans. Également Patrick Doyle, le collaborateur de Kenneth Branagh, qui sera invité. Trevor Jones également, le compositeur de Excalibur, ou le dernier des Mohicans notamment. Grand festival, on va y revenir dans un instant. Mais avant cela, vous serez l'invité donc de la table ronde consacrée aux femmes dans la musique de film, qui est, on va dire, le maillon faible dans la mesure où, par rapport à tous les métiers artistiques ou techniques même du cinéma, c'est celui où les femmes sont le moins représentées. Il y a quelques pourcentages, 6% je crois en 2018 sur les 300 projets français de l'année, où il y a une femme au générique. Alors, je n'ai pas la raison, l'explication, peut-être l'avez-vous, mais en tout cas une question peut-être claire que j'ai envie de vous poser, je l'ai rarement posée. Est-ce que vous, en tant que femme dans la musique de film, vous avez à un moment donné senti une discrimination ? Est-ce que vous avez senti que vous étiez rejetée d'un projet parce que vous étiez une femme ?
Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et je dois même dire que c'est l'inverse. J'ai senti plutôt une discrimination positive. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement le terme. En tout cas, ce que je constate à mon niveau, c'est que les réalisateurs qui travaillent avec moi, qui ont le désir de travailler avec moi, c'est souvent des réalisatrices. Et il y a quelque chose comme ça, d'une espèce de connivence ou de confiance peut-être plus facilement accordée d'une femme à une autre femme. Et j'ai l'impression que les réalisateurs arrivent vers moi maintenant qu'ils connaissent un peu mon travail. Mais en tout cas, que pour démarrer, cette petite communauté féminine m'aide. Après, il y a aussi peu de réalisatrices par rapport aux réalisateurs. Et j'avais quelques chiffres sous les yeux. À la SACEM, je crois que 9% des compositeurs sont des compositrices. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Alors on est peut-être encore moins en musique de film parce qu'il me semble... Alors là, j'essaye d'apporter des éléments de réponse, mais je n'en sais rien, à vrai dire. Il me semble qu'en plus des capacités musicales, il y a aussi un aspect très technique dans ce travail. Et que on sait aussi que du côté de la technique, il y a peu de femmes. Donc c'est une espèce de convergence de critères. D'accord. Qui font que, ouais, il y a très peu de femmes. Et aussi, Bah, on n'a pas de modèle, en fait.
Ouais, c'est
on
vrai.
On se dit pas, quand on est petite, moi, plus tard, je vais faire John Williams.
Et donc, une rareté à la source qui engendre une rareté dans le résultat final. Avec nous, Gaëlle Rodeville, qui est avec nous en ligne. Bonjour, Gaëlle.
Bonjour Benoît.
Et donc vous êtes la déléguée générale de ce fabuleux festival d'Aubagne qui va fêter ses 20 ans. Julie Rouet est avec nous.
Bonjour Julie.
On vient de parler avec elle de cette table ronde sur les femmes dans la musique de film qui va clôturer le festival, la journée de clôture du samedi le matin à 11h. Il va y avoir cette table ronde. On va pas parler plus de cette table ronde, du contenu de cette table ronde, puisque justement on invite tout le monde à venir et peut-être que moi je ferai aussi un petit compte-rendu de cette table ronde après sur ce qui sera dit sur ces femmes dans la musique de film. Mais Gaëlle, parlez-nous de ces 20 ans, quelle spécificité pour cette année exceptionnelle ?
Eh bien écoutez, pour les 20 ans, ce qu'on a surtout voulu faire, c'est évidemment offrir un festival riche en termes de programmation à la fois musicale et cinématographique, et puis surtout faire de ces 20 ans un moment festif où l'ensemble des compositeurs présents sur ces 19 dernières éditions et qui ont fait l'histoire de notre festival soient à nouveau réunis. Donc nous avons pour cela effectivement créé un concert hommage de musique de film en deux temps. Un premier temps où il y aura un concert donc dédié à ces grands compositeurs, Delerue, Williams, mais aussi Francis Lai et Michel Legrand. Et dans un deuxième temps, l'ensemble des compositeurs qui ont dirigé à Aubagne la masterclass de composition musicale, qui est une formation de 10 jours, ont créé spécifiquement pour ce concert 2 à 3 minutes de musique pour mettre à l'honneur d'une part la création musicale, mais aussi nous, avec la volonté de les mettre à l'honneur. Ça fait partie de ce concert hommage musique de film qui est extrêmement important pour nous. Et puis c'était aussi l'occasion pour le festival de créer deux programmes. Un premier programme qui est accord en duo, l'idée étant de mettre en lumière les duos de réalisateurs-compositeurs. Nous avons souhaité pour les 20 ans mettre en lumière Jérôme Monnier et Denis Dercourt, également Bruno Coulet et Tom Moore, et puis les réalisateurs et compositeurs islandais, David Thor Erlingsson et Benedict Johnson. Parallèlement à ça, on a souhaité également, comme on disait tout à l'heure, vouloir vous revenir sur l'histoire de ce festival. Et vous savez que dans le cadre de ce festival, il y a un espace de formation et de création qui est extrêmement important. Et dans ce cadre-là, il y a un dispositif troisième personnage, qui est un marché européen de la composition musicale pour l'image, qui a permis à pas mal de jeunes compositeurs d'y rencontrer des producteurs et des réalisateurs, et par la suite créer des premiers, second et troisième long métrage. Et donc nous avons créé un programme qui s'appelle Ils repasseront par là. Et parmi ce programme, nous avons quatre réalisateurs et quatre compositeurs qui reviennent à Aubagne et qui ont développé maintenant une carrière internationale. Le premier exemple compositeur du film Girl qui a gagné tant de prix et qui était encore représenté au César récemment pour une meilleure première œuvre et qui avait rencontré à l'occasion du festival en 2013 le réalisateur Lucas Dons. Et puis il en est de même pour les compositeurs Erwan Chando qui va venir présenter Une année polaire et puis Romain Trouillet qui va venir présenter avec Alexis Michalik le film Edmond. Romain Trouillet avait effectivement rencontré Alexis Michalik en 2014 au sein du marché de la composition musicale. Et enfin Rémi Louval qui va venir présenter Chaos Femmes Vénézuéliens.
Très bien, très bien. Bah, merci pour ce programme très complet. J'avais déjà cité donc Patrick Doyle et Trevor Jones en invité d'honneur. Il y a Christophe Héral également pour cette masterclass de composition qui va clôturer le festival. On n'a rien oublié. Je crois que par rapport au marché européen, je crois que vous êtes ouvert cette année aux séries. C'est ça bien ça ?
Oui, tout à fait. On a ouvert aux séries. Donc effectivement, séries et même il y aura également des pubs. Donc la volonté était d'aller au-delà du cinéma et de permettre aussi aux compositeurs de rencontrer des producteurs de séries et de publicités qui sont pas forcément accessibles.
Merci Gaëlle et à très vite.
Merci
donc à
vous,
Aubagne.
À très bientôt.
Au revoir. Eh bien voilà, la famille du cinéma, de la musique de film va se retrouver du 18 au 23 mars à Aubagne. Venez, on s'y retrouvera et écoutons un morceau de Patrick Doyle, Frankenstein, qui donc collaboration avec Kenneth Branagh à l'occasion de la présence de ce compositeur écossais à Aubagne. Frankenstein, musique de Patrick Doyle. Patrick Doyle, donc l'invité du Festival d'Aubagne, parmi de nombreux invités qui ont été présentés par Gaël Redeville du Festival d'Aubagne et Julie Rouet, donc qui fera partie de cette table ronde musique de film le samedi à 11h. Merci Julie Rouet, bonne vie à votre album About Luck.
Merci de votre invitation.
Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Projetons-nous maintenant dans les BO du mois de mars avec des coups de cœur, notamment Funan, un film d'animation franco-cambodgien, premier film de Denise Do, et Thibaut Adjeman signe la musique ainsi que la chanson finale Running, interprétée par Rebecca Ferguson. Funan, donc franco-cambodgien, nous entendons la musique tout de suite avec également le compositeur Thibaut Adjeman qui va nous parler de ce travail.
Quand j'ai rencontré Denis et qu'il m'a parlé de ce projet pour la première fois, il m'a un peu expliqué ce qu'il cherchait comme identité musicale. Il voulait quand même esquiver au maximum ce côté trop ancré au Cambodge, justement. Il voulait rendre la musique beaucoup plus universelle. Donc après, on a beaucoup discuté, il y a eu des allers-retours, donc on s'est quand même arrêté sur la possibilité d'insuffler en l'occurrence, c'est plutôt des flûtes ethniques, des choses comme ça, pour vraiment quand même marquer le spectateur à l'intérieur de manière géographique à l'intérieur d'un endroit. Mais c'est resté quand même très subtil. Comme c'est un film qui vise quand même, on va dire, un public jeune et adulte, avec un sujet quand même très, très fort, j'ai abordé ça de manière un peu comme si c'était un live action, en fait. Voilà, un peu plus mature. Alors après, évidemment, comme c'est un film d'animation, on a toujours, même dans la musique, hein, j'essaye de suivre le trait poétique qui se dégage d'un dessin. De toute façon, voilà, il y a toujours une manière de travailler qui est un peu différente dans live action, mais il fallait rendre les choses très, très réelles, en fait. Mais en même temps, il y a aussi la possibilité de pouvoir être plus poétique sur certaines parties. Évoqué Joe Hisaishi, par exemple, qui est donc un grand, grand compositeur japonais. Dans ses références, c'était quelque chose d'assez récurrent, justement. Voilà, cette utilisation du piano, quelque chose de très épuré, très intime. On voulait vraiment quelque chose qui ne soit pas dur, qui soit vraiment très, très enfantin, très simple. Limite comme une berceuse, mais ce n'était pas vraiment ce qu'on a cherché. Mais vous voyez un peu cette simplicité qu'on peut retrouver dans des berceuses avec des mélodies qui sont simples, qui ont cette capacité à pouvoir être calme, en fait, voilà, calmer les gens. On n'a pas eu besoin d'avoir beaucoup de musiciens, 4, s'il me semble. On a pris une violoniste, un violoncelliste et 2 flûtistes, une classique et un ethnique. Thème justement, c'est le thème de Kron, c'est le thème du père. C'est un personnage qui est fort en caractère et qui cherche à faire les choses bien. Ça se passe à un moment du film, il y a du temps pour la musique, il y a des paysages qui apparaissent à l'écran au même moment. Donc du coup, c'était vraiment le moment d'étaler son thème dans sa longueur, dans son ensemble. On va dire qu'il y a 3 grands thèmes pour ce qui concerne les personnages, c'est-à-dire le thème de la mère, Chou, le thème du père, Kwon, et le thème de leur enfant qui s'appelle Sovan. Quand c'est le thème de la mère, généralement, c'est plutôt une flûte qui va l'emporter. Quand c'est le thème du père, ça va être plus un violoncelle. Il y a des moments beaucoup plus durs, tout ce qui a un rapport avec les Khmers rouges. On est dans une musique complètement atonale, dure, sans mélodie, vraiment lourde dans les graves. Et un gros contraste entre ce que peuvent représenter les thèmes comme Kohn ou Chou ou Sovan et le thème des Khmers Rouges qui est beaucoup plus sombre.
Musique de Thibaut Adjeman pour Funan, film d'animation sorti le 6 mars. Autre film qui sort le 6 mars, Le mystère d'Henri Pic, comédie avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin, Alice Izaz. Laurent Pérez-Delmar retrouve Rémi Besançon après un heureux événement et Zarafa. Le film est assez réjouissant, Fabrice Lucchini est exceptionnel et la partition de Laurent Pérez-Delmar est également surprenante avec des sonorités insolites. Musique de Laurent Pérez-Delmar pour Le mystère d'Henri Pic. Autre film du mois de mars, Ma vie avec John F. Donovan. Film qui sort le 13 mars, premier film anglophone de Xavier Dolan avec Kit Carrington, Jacob Tremblay et Suzanne Sarandon. Gabriel Yared retrouve le cinéaste québécois après Tom à la ferme et Juste la fin du monde. Et merci à Gabriel Yared de nous avoir transmis cette partition exclusive puisque aucun CD n'est prévu pour cette BO. Ma vie avec John F. Donovan. Et je peux dire même que c'est une de mes préféré de Gabriel Yael depuis des années, Ma vie avec John F. Donovan, très émouvant. Ma vie avec John F. Donovan, le film de Xavier Dolan à l'affiche le 13 mars avec cette superbe partition de Gabriel Yared.
Moi, je suis compositeur. Ah, mais je suis l'auteur de la chanson.
Benoît Basirico et Cinésique sur Allegre FM pour l'actualité du mois de la musique de film.
Nous revenons vers un festival Ciné-Note à Bordeaux qui se déroule donc en mars, 25e édition, consacré à Bernard Herrmann du 7 au 15 mars, autour d'un ciné-concert sur Sueur froide d'Alfred Hitchcock et une ciné-conférence animée par Thierry Jousse. Bernard Herrmann donc à l'affiche à Bordeaux en mars. Nous entendons un extrait de la bande originale du film Le jour où la Terre s'arrêta, film de 1951, composé par Bernard Herrmann, donc. Ishtar Mathus Echeiz avec nous pour nous présenter ce compositeur.
Oui, tout à fait, avec plaisir. Bernard Herrmann est un compositeur de musique de film, hein, mais bon, pas seulement parce qu'il a aussi écrit des œuvres de concert comme un opéra ou une symphonie, mais c'est quand même essentiellement pour la musique de film qu'il est connu. Et sa musique la plus célèbre est probablement celle de la scène de la douche de Psychose avec les violons stridents bien connus.
Et oui.
Bernard Herrmann était né en 1911 et est mort en 1975. Et il est arrivé à Hollywood dans les valises, si j'ose dire, d'Orson Welles lorsque ce dernier s'y est installé pour réaliser son premier film, Citizen Kane, grand film de l'histoire du cinéma. Et avant ça, ils travaillaient ensemble déjà sur des pièces de théâtre radiophonique dont Bernard Herrmann, en fait, écrivait les musiques.
En effet, Bernard Herrmann a commencé sa carrière avec Orson Welles sur Citizen Kane, comme vous venez de le dire, mais sa carrière a très vite décollé, hein, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Alors, il a fait d'autres films par la suite avec Orson Welles, et puis ensuite, il a travaillé avec François Truffaut, Martin Scorsese sur le film Taxi Driver. C'est d'ailleurs le dernier film du compositeur, hein, puisqu'il est mort très très peu de temps après la fin de l'enregistrement de la musique. Et bien sûr, Alfred Hitchcock, avec lequel ça a été pas moins de 10 ans de collaboration. 10 ans et pas moins de 8 films. Et je dois ajouter à ces collaborations artistiques que les films pour lesquels sur lesquels il a travaillé avec Ray Harryhausen, qui était le maître des effets spéciaux à cette époque.
En effet, puis on pourrait citer Mankiewicz, on pourrait citer Brian De Palma. Ray Harryhausen, que vous citez, nous amène à un pan méconnu de la filmo de Bernard Herrmann, celui des films d'aventure et de SF.
Tout à fait. Alors, ces deux genres de films, aventure et science-fiction, représentent une partie non négligeable de la filmographie du compositeur. Avec Ray Harryhausen, donc on peut citer par exemple Jason et les Argonautes, Le Septième Voyage de Sinbad, mais aussi sans Ray Harryhausen, Le Jour où la Terre s'arrêta, dont on vient d'entendre un extrait, Voyage au centre de la Terre ou encore Les Voyages de Gulliver. Et je dois apporter une précision importante, c'est que Bernard Herrmann orchestrait lui-même ses musiques.
Ah oui, c'est important de le dire, parce que beaucoup délèguent cela à un orchestrateur. Le fait qu'il orchestre lui-même, ça signifie qu'il choisissait avec minutie les instruments qu'il voulait, avec des sonorités parfois rares et insolites. C'était le cas dans Le jour où la Terre s'arrêta, qui a ouvert la chronique.
Là-dedans, on entendait du theremin, et le theremin est en fait un instrument électronique qui a été inventé par Monsieur Theremin, un Russe, il y a tout juste 100 ans. C'est un instrument qui a une sonorité qui, je trouve, correspond assez bien au film de science-fiction, car il y a quelque chose de très aérien dans son son. Et en fait, je pense que les films de ce genre permettent tout particulièrement aux compositeurs de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est ce qu'il a fait avec cette musique.
Mais il n'y a pas que le theremin entendu dans le jour où la Terre s'arrêta, il y a aussi d'autres instruments insolites qu'il ait pu employer, comme un deuxième exemple que vous voulez nous citer.
Oui, tout à fait. Et ce second exemple insolite, c'est l'instrument qui s'appelle le serpent. C'est un instrument à vent qui existe depuis à peu près le 16e siècle, et Bernard Herrmann l'utilise dans la BO du film Voyage au centre de la Terre, film de 1959. Il l'utilise ici pour décrire musicalement les énormes reptiles présents au centre de la Terre.
Merci Hirschtar, ben on écoute ce serpent tout de suite.
«
À l'instant, Voyage au centre de la Terre, donc, qui clôturait cette chronique d'Ishtar Mathus Echez à propos de Bernard Herrmann.
Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
L'émission arrive à son terme. Maintenant, deux BO du mois de fin mars, qui sort le 27 et le 20 mars. Tout d'abord, le 27 mars, Boy Erased, avec Lucas Hedges et Nicole Kidman et Russell Crowe, l'histoire vraie du combat d'un jeune homme pour se construire, alors que tous les aspects de son identité sont remis en question. La musique est signée d'Annie Bensi et Sander Jurjans. Musique de Danny Bensi et Sander Jurjans pour Boy Erased. Et enfin, le 20 mars, Qui m'aime me suive, comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Fraud et Bernard Lecoq. Fred Avril signe la musique, ainsi que la chanson de générique interprétée par Mike Harvey. Fred Avril était dans les studios récemment à propos de Planqueur ou Pearl. Et bien là, il revient donc avec Qui m'aime me suive. Musique de Fred Avril pour Qui m'aime me suive.
Et maintenant, le clou de notre spectacle.
Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission BO mensuelle. Merci Gilles Brézard à la technique. Merci beaucoup. Et on termine avec Manuel Bleton qui va nous présenter John Williams. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Eh bien, peut-être une introduction à cette chronique.
C'est une chronique que j'ai intitulée Le Sorcier, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de virtuosité dans la sorcellerie. Voilà.
Merci Manuel. Écoutons donc cette chronique sur John Williams. Au revoir.
C'est bien compris ? Alors commençons.
« John Williams, Le Sorcier. Star Wars. Rencontre du troisième type. Bon, on en écouterait bien plus longtemps, mais là, c'est pas possible. Il y a trop d'extraits. Je mets le disque. Les grands-mères d'Harry Potter. Les sorcières d'Eastwick. De la mer.
Qui êtes-vous ?
Votre ami.
Leia. Quelle joie.
The Fury.
Dark Vador est-il mon père?
Il est... Te l'a-t-il dit?
Oui.
Ils décidèrent donc d'envoyer toute la flotte rebelle pour détruire la station spatiale.
The River.
Là, sur la lune d'Andorre, il rendit à son père les derniers hommages du chevalier Jedi.
L'Empire du Soleil. C'est déjà fini.
Tu ne connais pas les pouvoirs de la Force Obscure. Je dois obéir à mon maître, comme tu lui obéiras demain.
Jamais! Il faudra plutôt me tuer.
À bientôt.